9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous. Pour ce dernier numéro de l'année, j'ai choisi de vous faire réentendre quatre grands créateurs. D'abord, Luz, le dessinateur qui fait revivre ses années Charlie Hebdo. L'album s'appelle Indélébile. C'est à la fois hilarant et bouleversant. Une star de l'art lyrique, l'immense Cecilia Bartoli, qui publie un nouveau disque d'air oublié de Vivaldi et une intégrale Rossini. Un écrivain et scénariste, Jean-Claude Carrière, qui nous livre sur le thème de la mort, notre mort, inéluctable, une réflexion stimulante et magistrale, la vallée du néant. Et un auteur-dessinateur qui continue de se raconter et fait de sa propre histoire un phénomène de librairie, Riyad Satouf, pour la suite de l'Arabe du futur.
Europe 1.
Bonjour Luz.
Bonjour.
Comment ça va ?
Ouais, ça va. Ça va. Comme un début de week-end.
Bon, très bien. Dans le splendide et terrifiant Catharsis, vous disiez ne pas savoir si vous pourriez continuer à dessiner après Charlie. Et voilà que vous dessinez Charlie. Vous racontez en dessin vos 20 et quelques années de bonheur au milieu des autres dessinateurs et des dessins de Charlie. Les Indélébiles, c'est le titre. Indélébile, c'est ce qui ne peut pas s'effacer. Qu'est-ce qui ne s'efface pas chez vous, Luz ?
Ce qui ne s'efface pas, en fait, c'est le sourire. En fait, c'est la joie de vivre, précisément. C'est l'encre sur les mains, c'est au-delà du souvenir. J'ai mis longtemps avant de digérer le fait que je rêvais que tout était presque normal. C'était presque un cauchemar où je me réveillais le matin et j'avais presque l'automatisme d'aller au journal alors que je l'ai quitté même de mon propre chef. Et je revoyais tous les gens que j'avais connus, y compris voilà, GB, Charb. À un moment donné, il fallait assumer le fait que ses compagnons de route étaient au bout des doigts, en fait, tout bêtement. Il fallait les dessiner, il fallait parler de ça, il fallait...
Les faire revivre en dessin.
Les faire revivre en dessin, les faire... Parce qu'eux-mêmes sont des gens vivants en dessin.
C'est la question qui traverse votre album. Pourquoi dessiner ? Pour faire marrer d'abord ?
Ce que j'ai l'habitude de dire, et ce que je pense depuis que j'ai 8-9 ans, c'est à l'époque où je dessinais les cercles familiaux autour du vin rouge et d'autres pâtés, c'est d'essayer de comprendre ce monde un peu étrange des adultes. Je pense qu'un dessinateur, c'est quelqu'un qui est à la lisière de l'adolescence et de l'adulte. On dessine pour essayer de comprendre le monde absurde. Et le monde ne s'arrête jamais d'être absurde. C'est pour ça que ça peut faire 23 ans de métier, quoi. 23 ans de boîte. Vous imaginez ? Vous êtes resté le plus longtemps que vous êtes resté dans une boîte, c'est combien de temps ?
13 ans, 14 ans.
Ah, quand même, ouais, pas mal. C'est pas mal.
Ah, et une fin magnifique dans Les Indélébiles. Une dernière histoire. La mort de Johnny. Ouais. Elle tombe un lundi, c'est le jour du bouclage du journal. Et Cabu... Et le roi du monde, c'est l'homme du jour parce qu'il détestait Johnny, enfin comme chanteur en tout cas, donc il fait une extra qui suscite l'admiration de tous. Vous avez pensé à Cabu forcément au moment où Johnny est décédé.
Évidemment. Mais j'ai pensé à Cabu quand on a invité Johnny à faire les commémorations aussi un an après le 7 janvier.
Oui.
Où tout d'un coup je me suis dit
Place de la République.
Place de la République. Je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'il vient foutre là, quoi. Et c'est là où j'ai compris que les commémorations ne sont pas faites pour les gens qui sont morts, elles sont faites pour rassembler la nation, pour le symbole, etc. Et que si on avait voulu faire une commémoration pour Cabu, effectivement on aurait invité une centaine de collégiennes japonaises en culotte courte et à chanter du traîné. Ça aurait été beau. Non, je te jure, je pense ça. Ouais.
Bon, c'est quand même difficile de considérer qu'il n'y a pas de nostalgie dans cet album.
Non, je crois pas. Très honnêtement, je crois pas. J'ai regardé dans le dictionnaire, hein, la différence entre nostalgie et mélancolie. Je pense qu'il y a vraiment de la mélancolie.
Oui.
Il n'y a pas du c'était mieux avant. Il y a du c'est en moi avant.
Oui.
Le avant, il est en moi. Il est en nous. Il est en plein de lecteurs de Charlie qui nous ont accompagnés.
Oui, mais si on vous dit, s'il y a une bonne fée qui vient vers vous et qui vous dit demain ça recommence, tu vas aller au journal, tu vas retrouver tous tes copains, tu vas dessiner librement, tu vas dessiner sans les flics autour.
vous y allez, vous replongez.
Ah bah ouais. Évidemment que je replonge. Mais faut accepter qu'il y a quelque chose de brisé, parce qu'il y a quelque chose de, ouais, d'un peu brisé, d'un peu cassé. Faut pas être dans le déni. C'est aussi pour ça que je suis parti de Charlie's, parce que j'avais pas envie d'être dans le déni, de faire semblant que les copains étaient là. Voilà. Et je suis content que Charlie continue, et je pense qu'il continue bien. Je le lis plus. Je suis honnête. Parce que voilà, je vois les trous dans le journal, mais voilà, on existe les uns les autres, on existe. Et quelque part, même le lecteur qui a lu Charlie, qui était un fidèle de Charlie, ou même qui lisait Charlie un petit peu, il a un petit peu de Charlie en lui, et pas du Je suis Charlie, du Charlie le journal, le Charlie l'aventure de presse, le Charlie de Charles, le Charlie de Cabu, le Charlie de Bernard. Il est au bout de notre réflexion, en fait. On a passé 23 ans aussi accompagnés par Charlie. Je dis ça parce que moi, j'étais à l'intérieur, mais il y a d'autres gens qui étaient à l'extérieur, qui étaient juste derrière le kiosque. Les kiosquiers, les gens qui l'achetaient, les abonnés, les libraires. Je tiens encore à dire ça, parce que c'est un monde incroyable où il n'y avait pas Amazon, où il y avait des vrais gens quand même avec lesquels on était en contact. Je parle de 23 ans d'actualité où on a tous baigné dans cette actualité qui nous a parfois submergés, jusqu'à une grande, grande, grosse submersion il n'y a pas si longtemps. Et en même temps, Charlie était là, une espèce d'aventure de presse assez unique en France, unique dans le monde. Et il fallait peut-être remettre de la vie, enfin pas de la vie, mais dépasser le macabre du 7 janvier, enfin macabre de ces dernières années, on va dire, plutôt, pas uniquement le 7, et pouvoir permettre à des gens qui connaissaient ou qui connaissaient pas Charlie ou qui l'ont vu un peu de loin, de connaître la réalité de ce journal. La réalité au cœur de l'histoire de la presse française, quoi. Merde.
Vous redonnez vie, Luz, à cette aventure humaine joyeuse, drôle, libre. Et voilà.
Libre. C'est le maître mot. Libre, oui. Libre et joyeux. Ça en fait deux.
Merci beaucoup, Luz. Les Indélébiles chez Futuropolis. Merci à vous.
À bientôt.
À suivre dans C'est arrivé cette semaine, la cantatrice Cécilia Bartoli.
Bonjour Cécilia Bartoli.
Bonjour.
On est très heureux de vous accueillir pour nous présenter un nouvel enregistrement consacré à Vivaldi et à ses airs d'opéra oubliés 20 ans après un premier disque. Vous continuez de nous faire découvrir un autre Vivaldi et c'est miraculeux. Et puis, comment auriez-vous pu manquer cet anniversaire 150 ans tout juste après la mort de Rossini le 13 novembre 1868, votre cher Rossini? Voici un coffret monumental, sud intégral.
Ah oui.
Il y a
oui,
tous les enregistrements.
Il y a beaucoup d'enregistrements. Au moins tous les enregistrements que j'ai fait de Rossini depuis 30 ans.
15 CD, 6 DVD, les grands opéras bouffes, Barbier de Séville, Turc en Italie, etc. Les opéras seria, opéras sérieux que vous avez tirés de l'oubli comme Othello. Et puis toutes ces arias, toutes ces chansons synonymes de joie et de virtuosité. La lune est sur la mer.
Ben
la
oui.
Danza de Rossini, irrésistible et indémodable. On va reparler de Rossini un peu plus tard, mais je voudrais savoir, Cécilia Bartoli, quand on est lancé dans une telle danza endiablée, est-ce qu'on éprouve le même frisson que ceux qui vous écoutent, ou est-ce que c'est la concentration qui domine sur le plaisir, comme pour un pilote de Formule 1?
Finalement, c'est les deux. C'est la concentration, mais la joie aussi, parce que c'est une danse, justement, c'est une tarantelle. Alors, il faut donner tout cet esprit de la tarantelle avec joie, mais en même temps, beaucoup de concentration, parce que c'est pas évident, mais c'est très difficile.
C'est
la danse
très rapide,
Rossini.
Ce que vous faites. C'est très très rapide. Il y a même des gens qui ont chronométré, vous faites des secondes en moins que Caruso sur cette danza. Hein. Vous allez plus vite que lui.
Alors Vivaldi, votre nom restera associé à Vivaldi parce qu'avant vous, on connaissait les quatre saisons, le concerto pour mandoline et c'était à peu près tout. Et jusqu'à vos incursions à la bibliothèque universitaire de Turin, où dormaient les partitions des opéras oubliés de Vivaldi. Une partie des opéras d'ailleurs, certains ont été perdus. Hein.
Oui, certains ont été perdus. Et là, c'est un enregistrement que je tiens à le dire, c'est très spécial. Enfin, moi, quand j'avais enregistré Vivaldi, ça fait 20 ans. Ouais. Et c'était une grande découverte. Finalement, on connaissait beaucoup le Vivaldi, la musique instrumentale et sacrée, mais pas nécessairement les airs, les opéras de Vivaldi. Et là, j'étais très concentrée sur la virtuosité à cette époque-là. Là, le disque qui vient de sortir, c'est beaucoup plus intime, beaucoup plus profonde. Et finalement, c'est après 20 ans de découverte de la musique baroque aussi, parce que le premier disque, c'était le premier disque que je faisais en baroque. Alors là, beaucoup après. Alors,
et une prise de risque, hein. Il paraît que votre maison de disque avait un peu hésité à ce moment-là, à vous lancer dans ce Vivaldi.
Oui, ils avaient hésité parce que personne ne connaissait vraiment Vivaldi, les opéras de Vivaldi, les airs d'opéra. C'est pour ça que c'était un tout petit risque, mais je pense que ça...
pour un immense succès, parce qu'il y a eu plus d'un million d'albums vendus de ce Vivaldi. Voici un deuxième Vivaldi avec des inédits. On en écoute tout de suite un extrait. Cécilia Bartoli, comment l'entendez-vous ce Vivaldi ? C'est un Vivaldi mélancolique ?
Ah oui, là c'est un Vivaldi qui vient après 20 ans d'expérience dans le domaine baroque. Et je suis contente qu'il arrive maintenant ce Vivaldi parce que la musique est beaucoup plus sensuelle, plus profonde, plus mélancolique aussi. Alors on a besoin d'une grande expérience pour chanter ce genre de répertoire. Et en même temps, c'est très important de l'avoir fait parce que c'est tellement différent du premier Vivaldi que j'avais fait quand j'étais beaucoup plus jeune, beaucoup plus virtueuse, beaucoup plus énergétique. Et on peut dire ça, je ne sais pas.
Oui, énergique, rythmée.
Rythmée, voilà.
Virtueuse.
Virtueuse, oui, d'une virtuosité vraiment extrême. Ouais. Là, c'est le contraire. Il y a quand même des airs virtueuses, hein, mais plutôt des airs dramatiques, oui. Comme ça. Mais la plupart des airs sont très
plus
lentes
profond,
et plus profondes.
Plus méditatifs, voilà.
Intimes.
Est-ce
oui.
que dans ces enregistrements, il y a aussi le plaisir, l'excitation, la fierté de recréer des airs qui n'ont pas été chantés depuis des siècles.
À l'époque, dans mon premier Vivaldi, oui. Effectivement, c'était vraiment... Tous les airs étaient des inédits. Là, après la sortie du premier Vivaldi, beaucoup de chanteurs... Ils sont allés voir, intéressés. Alors, dans ce disque, il n'y a pas vraiment des inédits. Mais chaque fois, chaque interprète, là, chaque chanteur donne des visions différentes de la musique de Vivaldi. Ça, c'est la magie de la musique. Chacun peut l'interpréter d'une façon différente.
C'est effectivement magique. Vous restez avec nous, Cécilia Bartoli. On va parler de Rossini. Vous voulez bien ?
Ah oui, c'est mon premier amour, Rossini.
Je savais que ça. Si. Pourriez-vous plaire, Cécilia Bartoli, invitée d'Europe 1 ce matin. À tout de suite.
C'est arrivé cette semaine, c'est jusqu'à 10h avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Avec Cécilia Bartoli, la grande mezzo-soprane italienne, et parfois on ajoute rossinienne. Est-ce que vous sentez rossinienne, Cécilia Bartoli ?
Oui, je me sens rossinienne parce que c'est vrai, mon premier amour, c'était Rossini. J'ai fait mes débuts sur scène avec des rôles rossiniennes. Et finalement, je trouve que Rossini n'était pas seulement un grand compositeur, était un vrai professeur du chant.
Oui.
Parce que l'écriture rossinienne fait qu'on est obligé de s'entraîner tous les jours, de faire des exercices, de maintenir la voix élastique, souple en même temps, et très entendue, parce qu'il faut chanter dans un registre très grave et très aigu. Alors, voilà. Et ça te donne la longévité, je pense, aussi.
Ah oui.
À une voix. Ah oui, tout à fait. Mais il faut le retenir toujours dans le répertoire. Si on le quitte, lui te quitte aussi.
Voilà, donc plus de 30 ans que vous fréquentez Rossini, que vous faites vivre ses opéras, ses chansons. Vous l'avez dit, vous avez débuté avec lui, c'est en chantant Rosine du Barbier de Séville à la télévision italienne que vous avez fait connaître.
Alors, c'était la Rosine, je l'avais chantée sur scène à l'opéra. J'avais même pas 20 ans.
Oui.
Et après, j'étais invitée dans une transmission, oui, à la télévision italienne. C'était Rai Uno. Oui. Et voilà, c'était un moment.
Et c'était quoi? C'était Una Voce Poco Fa?
Una Voce Poco Fa.
Alors, disque à la demande. Je vous donne le choix pour un Rossini. Una Voce Poco Fa, un autre air du Barbier, un duo, un duetto de l'acte 1 avec... avec Leonucci, ou bien Isabella de l'Italienne à Alger.
On commence avec Rosine et après on passe à Isabella.
Alors on va écouter cet air qui vous a porté chance, en quelque sorte.
Oui.
Rosine du Barbier de Séville, Rossini, professeur de chant, oui. Disiez-vous. Rossini mort il y a 150 ans, pas très loin d'ici, de l'autre côté de la Seine, dans sa villa de Passy. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous est familier, Cécilia Bartoli, dont vous avez appris à connaître l'histoire, le caractère?
Le caractère de Rossini, ah oui, c'était un homme quand même pas facile, hein, oui. Quand on pense à lui. Et c'était pas facile, mais en même temps, je pense qu'il avait beaucoup de sens d'humour et ils adoraient la cuisine.
Eh bien, évidemment, il a laissé son nom à un plat, au moins le tombeau de Rossini, évidemment. Oui. On en écoute une autre. Écoutez, on va choisir maintenant d'écouter Isabella de l'Italienne d'Alger. L'Italienne Alger, pronti abbiamo, tout est réussi dans ce qu'on entend, Cécilia Bartoli. Évidemment, c'est à retrouver dans ce coffret Rossini où on trouve l'essentiel de vos enregistrements de Rossini. C'est une merveille d'harmonie et d'équilibre, mais dans votre vie d'artiste de scène, vous avez eu parfois à batailler contre des orchestres.
Oui, chaque fois... Souvent, ça arrive quand on a des metteurs en scène qui ne sont pas vraiment inspirés par la musique et seulement par le livret. Et là, quelquefois, on a de petites batailles. Mais c'est normal.
Et
c'est,
des orchestres...
Il faut avoir de batailles sur scène, c'est toujours comme ça.
Et des orchestres qui sont trop loin des chanteurs ou qui ont tendance à écraser leur voix, ça arrive aussi.
Voilà, c'est ce que je trouve très important. Moi, depuis que je commençais à étudier la musique baroque et je commençais aussi à chanter avec ces instruments d'époque, je trouvais un équilibre incroyable et un vrai dialogue entre la voix et les instruments. Et je trouve que ça m'a ouvert complètement une dimension sonore que je ne connaissais pas. Quand on joue avec des instruments modernes, surtout le répertoire baroque, maintenant on ne le fait plus. Mais même le bel canto, même Rossini, je pense, a besoin de ce genre de couleur, de sonorité, de transparence qu'on n'arrive pas à voir quand on le joue avec des instruments modernes, avec des grands orchestres.
Et la voix, votre voix, la voix humaine, Cécilia Bartoli, c'est un instrument comme un autre ?
Ben, la voix humaine, je pense que c'est l'instrument le plus flexible et qui doit dialoguer avec tous les instruments de l'orchestre, avec la flûte, avec le bois, avec le clarinet. Alors c'est... Et en même temps, c'est le plus mystérieux parce que c'est à l'intérieur. Quand on parle d'une orchestre, on parle de tous les instruments qui sont à l'extérieur. Et nous, on a, la voix, c'est à l'intérieur de nous. Alors, c'est-à-dire, c'est fragile, mais en même temps, ça peut être très, très puissante. Ça peut arriver justement tout droit à le cœur des gens.
Il y a donc ce coffret Rossini, ce nouveau disque de Vivaldi. Et puis, vous avez une autre actualité. Vous venez de créer au sein de Deka Classique votre collection Mentored by Bartoli avec... des artistes que vous voulez promouvoir, qui sont le premier d'entre eux, c'est un ténor qui s'appelle Camarena, Javier Camarena.
Oui, c'est un ténor magnifique, je le connais depuis des années, et il n'a jamais eu la chance de faire un enregistrement. Je trouve que c'est le ténor, un des meilleurs ténors de sa génération, et j'ai envie de donner ce que je reçois. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, il y avait dans la maison du disque, il y avait vraiment de producers qui étaient de guides pour nous, par rapport au répertoire, par rapport à choisir voilà, qu'est-ce qu'il faut chanter sur scène, qu'est-ce qu'il faut chanter dans le concert.
Cécilia Bartoli, vous serez en concert le 3 décembre à la Philharmonie de Paris, je le dis pour mémoire parce que évidemment c'est complet depuis belle lurette. Merci d'être venu nous parler de toute cette actualité, de nous faire partager vos émotions et votre musique.
Super.
Sur Europe 1.
Merci, merci à vous. Au revoir.
Dans la suite de cette arrivée cette semaine, l'écrivain Jean-Claude Carrière sort au micro de Patrick Cohen. Jusqu'à 10h, vous écoutez Patrick Cohen avec C'est arrivé cette semaine sur Europe 1.
Notre mort, c'est le destin de tous les humains et d'ailleurs de tous les êtres vivants. Tout va s'arrêter un jour. Nous sommes tous condamnés à retourner vers un néant qui reste un mystère absolu et qui fait l'objet d'un livre magistral. Bonjour Jean-Claude Carrière.
Oui, bonjour.
La vallée du néant chez Odile Jacob. Ce livre, c'est d'abord un très grand bonheur de lecture et c'est toujours ça de pris en attendant la mort, comme disaient des proches. Mais rien de triste ou de morbide, c'est comme toujours chez vous une forme de gai savoir. Et là, sur nos façons de vivre et d'appréhender cette issue fatale et certaine, d'abord un mot sur votre credo
d'abord,
à vous.
On peut mourir de rire, vous savez.
Aussi,
c'est
bien sûr.
Ça arrive. Et, c'est à souhaiter même.
Et il y a beaucoup d'anecdotes très joyeuses dans votre livre. Pour vous, le néant, Jean-Claude Carrière, c'est le néant. Il n'y a pas de mystère, pas d'autre vie, pas d'autre monde. De ce néant, vous n'attendez rien, vous.
Moi, non, mais tout au cours de l'histoire et des différentes civilisations, beaucoup de gens se sont posé des questions sur qu'est-ce qu'il y a après qu'il n'y ait rien. Comme le demandait Chateaubriand, une phrase que j'adore, « N'y a-t-il rien dans ce rien ?»
Oui.
Il parle même de pensée de poussière. Est-ce que la poussière aurait des pensées ? Alors, il y a dans le livre une espèce de petit catalogue des quatre grandes attitudes possibles en face du néant, d'où nous venons et vers lequel nous allons tous, et j'essaie de les analyser, de les décrire à ma manière.
Cette promesse de néant, effectivement, nous pose des milliers de questions sur notre façon de vivre, de penser la mort ou de ne pas y penser, sur la vieillesse, la postérité, ou sur ces deux mots parmi les plus employés, toujours et jamais, mais soulignez-vous, Jean-Claude Carrière, qui ne veulent rien dire.
Non, absolument rien, parce que c'était des mots qu'on nous faisait répéter quand j'étais... pensionnaire dans un collège religieux pendant la guerre, le soir on nous réunissait et on nous disait « Pensez, répétez dans votre tête le mot toujours, toujours, toujours ». On peut le faire d'ailleurs ici, avec nos auditeurs. Oui. Répétons toujours, toujours, toujours. Ça ne mène nulle part.
Oui,
ça
parce veut dire que quoi, la seule chose qui dure toujours, c'est la mort.
Oui, c'est ça. Oui. Et puis on ne peut pas dire toujours, toujours.
Ouais, non.
Il y a un moment donné, il faudra s'arrêter.
Rien n'est éternel, pas même... cette terre.
Oui, pas même cette terre, pas même l'univers.
Hier, on évoquait le cri d'alarme de Nicolas Hulot sur cette terre qui brûle et qui étouffe. Dans votre livre, vous relevez avec effarement que chez vous, dans l'Hérault.
Ce matin, en arrivant chez vous, je viens de voir que Bangkok coule.
Oui.
Que la ville de Bangkok est en train de s'effondrer. C'est quand même très étonnant.
Et votre village natal auquel vous êtes attaché.
Dans un village, on voit tout ce qui se passe dans le monde entier. On le voit tout dans un petit coin de terre. Il suffit de bien observer.
Les châtaigniers, les chênes, écrivez-vous, sont en train de mourir de soif.
De soif et de chaleur et de sécheresse. Et cette année, ça s'est un petit peu arrangé, mais la canicule qui a suivi a tout remis en question. L'aspect de la campagne, ce que l'on peut en retirer, mais pas du tout le même que ce qu'il était quand j'étais enfant, bien entendu.
Mais la mort, la fin de vie, Jean-Claude Carrière, vous en racontez plusieurs. La mort la plus joyeuse que vous ayez connue, celle de votre grand-père maternel, mort en buvant du champagne.
Qu'il n'avait jamais bu de sa vie. Oui, il était perdu.
Parce qu'il était pauvre.
Et notre médecin a dit à ma grand-mère, vous avez du champagne, c'était dans un café que tenaient mes parents. Et oui, alors on lui a fait boire du champagne et il est mort. Il avait une angine de poitrine. Il est mort en chantant des chansons de corps de garde qui lui revenaient tout à coup à la mémoire depuis sa jeunesse. Et ma grand-mère essayait de le faire taire. Mais tais-toi, ne chante pas ça. Et il est mort dans la joie. C'était la première fois de sa vie qu'il buvait du champagne.
Alors il y a dans votre livre de très belles pages sur la vieillesse aussi, discrète, silencieuse, qui arrive sur la pointe des pieds.
Que je connais, oui.
Celle
oui,
que Chateaubriand appelait une voyageuse de nuit.
Une visiteuse de nuit.
Visiteuse de nuit.
Ce qui est une très jolie expression, c'est vrai que j'aime beaucoup Chateaubriand. Je passe des soirées entières avec lui. Ouais. Je fais des conférences lectures sur Chateaubriand. C'est un auteur très très méconnu, très 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 étonnant. Et il a parlé très très bien de ce néant. Et de cette, il avait inventé d'ailleurs le mot néantiste, et de tout ce qui peut nous concerner aujourd'hui. Mais dans l'ensemble, si vous voulez, à la fin du livre, je vois qu'il y a quatre attitudes possibles. Ouais. Il y a la nôtre, enfin la mienne en tout cas, qui consiste à dire, on ne sait pas s'il y a une vie après la mort. Certains l'espèrent, certains le disent. Une chose est certaine, il y a une vie avant la mort, celle que nous connaissons en ce moment. Et celle-là, il ne faut pas la louper. Il ne faut pas la gâcher, parce que c'est la seule qu'avec certitude nous aurons jamais.
Il faut en profiter le plus possible et le mieux possible, et c'est peut-être pour ça que c'est utile de penser à la mort, finalement.
Oui, naturellement, parce que justement nous allons la perdre, cette vie. Alors ça, c'est notre attitude à nous, néantistes. Puis il y a ceux qui disent, non, la vie au fond, ce n'est qu'une antichambre, la vraie vie commence à la mort, l'attitude chrétienne. Hein, c'est-à-dire que la mort nous ouvre les portes de l'éternité, nous connaîtrons une autre vie, soit dans l'enfer, soit dans le purgatoire pendant quelque temps, et enfin dans le paradis. Et ça, c'est une attitude pleine d'espérance, mais que jusqu'à maintenant, rien ne prouve. Et quelle sorte de vie? Qui serons-nous? Comment mon âme peut souffrir dans les chaudières de l'enfer? Par exemple, qu'est-ce que nous avons inventé l'âme? C'est une notion que nous avons inventé avec Platon. Alors ça, c'est la deuxième attitude. Il y en a une troisième dont je parle pas mal dans le livre, qui a plus ou moins disparu, qui consiste à dire, c'est l'attitude pharaonique, ou bien des empereurs chinois, qui consiste à dire, comme je suis tout à fait puissant dans ce monde, je le serai dans l'autre monde. Et je ne vais pas partir seul. Je vais partir avec mon harem, je vais trucider mes concubines, mes esclaves, je vais les amener avec moi, avec ma vaisselle, mon argenterie, mes armes, mes chevaux, mes soldats, comme les empereurs chinois, parce que j'aurai à coup sûr une autre vie. Les pharaons étaient absolument convaincus qu'ils auraient une seconde vie. Et bon, ça, rien évidemment ne le prouve. Et puis il y a une quatrième attitude très orientale, qui est ce qu'on appelle la réincarnation. C'est-à-dire la croyance que si, dans cette vie, nous nous sommes conduits de façon honorable, si nous avons fait du bien autour de nous, si nous avons été généreux, nous aurons une autre vie, nous serons réincarnés, si notre karma, comme on dit, est positif, nous serons réincarnés, mais là, pas n'importe comment et pas chez n'importe qui. Parce qu'on peut être réincarné dans un grand homme, dans un animal superbe, ou dans un lion, mais aussi dans un cloporte, ou dans un crapaud. Je n'ai rien contre les crapauds, j'en ai un chez moi que j'aime beaucoup.
Mais vous n'imaginez pas être réincarné en crapaud, vous.
Alors ce sont les quatre attitudes dans lesquelles on peut choisir, je n'en vois pas d'autres. J'en parle longuement, je détaille le tableau de Delacroix au Louvre, oui. la mort de Sardanapale, qui justement fait égorger ses favorites au pied de son lit, et qui est une de ses illustrations.
Il y a beaucoup de choses formidables dans ce livre, Jean-Claude Carrière, sur la postérité, qu'est-ce qui restera de nous, sur la mémoire des disparus, parce que nous sommes chacun les seuls à nous souvenir que telle ou telle personne a existé. C'est une réflexion.
Ça, c'est une phrase de Chateaubriand encore.
Aussi, encore.
Quand il parle de sa grand-mère et de ses amis au château de Combourg, il dit cette phrase qui m'a toujours beaucoup touché. « Je suis peut-être la seule personne à se souvenir qu'elles ont existé. » Et chacun de nous peut dire ça de quelqu'un.
Merci Jean-Claude Carrière d'être venu nous parler de cette magnifique vallée du néant qui paraît chez Odile Jacob.
Dans quelques minutes, l'auteur de bande dessinée Riyad Satouf sera l'invité de Patrick Cohen dans C'est arrivé cette semaine. De 9h à 10h, vous êtes avec Patrick Cohen pour C'est arrivé cette semaine.
Bonjour Riyad Satouf.
Bonjour Patrick Cohen.
Drôle de clin d'œil, surtout pour un Riyad. Content d'avoir doublé Zemmour.
C'est marrant parce que on me pose parfois en ce moment ce que je pense de ce qu'il a dit Eric Zemmour sur les prénoms. Oui. Et il y a quelque chose qui m'étonne avec Eric Zemmour, c'est qu'en fait il me rappelle énormément mon père.
Ah.
Et mon père était complètement, c'était un arabe d'extrême droite, et c'est ce que je raconte dans mon livre. Et en fait, si je m'appelle Riyad, c'est bien parce qu'il ne supportait pas l'idée que je puisse avoir un prénom autre que d'origine arabe. Oui. Parce que pour lui, j'étais le Syrien de base. Donc c'est exactement la même chose. Et quand je l'entends dans les médias dire ces trucs, ça me rappelle vraiment ce que me disait mon père. Je suis très content de lui être passé devant.
Bon, alors voilà. Donc, il est doublé par un arabe qui ne l'est qu'à moitié d'ailleurs, et qui ne parle pas du tout l'arabe, ou quasiment pas.
Un arabe qui est arabe, chouette.
Oui, mais vous dites toujours la même chose. Et on voit bien qu'enfant, vous ne parlez à peine, au désespoir justement de votre père. Alors pour ceux qui reviendraient d'un séjour sur la Lune, je rappelle que L'Arabe du Futur, c'est un vaste roman graphique autobiographique, même si vous préférez écriture dessinée.
Oui, non, on peut dire que c'est autobiographique parce que c'est l'histoire de ma famille quand même.
Oui, voilà, donc c'est ça, un roman graphique. Récit de vos souvenirs d'enfance en Libye, puis dans la Syrie paternelle, puis volume 4, dans la Bretagne maternelle. Énorme succès public, traduction dans une vingtaine de langues et tirage à plus d'1,5 million d'exemplaires. Vous imaginez que votre vie, votre enfance puisse intéresser autant de monde, Riyad Satouf?
Sincèrement, non. Mais quand j'ai commencé à faire l'Arabe du Futur, c'était une évidence pour moi. En fait, quand la guerre civile a commencé en Syrie en 2011, j'ai dû aider une partie de ma famille qui habitait encore à Homs à venir se réfugier en France. Et j'ai eu énormément de difficultés à leur obtenir des autorisations parce que, voilà, nous on faisait ça de manière légale, je veux dire. Et en fait, comme j'ai eu beaucoup de problèmes à leur obtenir des autorisations, j'ai eu envie de raconter toutes ces galères. Mais pour les raconter, il fallait que je raconte l'histoire depuis le début, et donc c'est ce qui m'a fait me lancer dans l'Arabe du Futur. Mais je pensais pas qu'un lecteur brésilien, par exemple, s'identifierait. Enfin, récemment, j'étais au Brésil, il y en a un qui m'a dit « Ah, ça me rappelle, j'habitais enfant dans une petite ville à côté de Rio et je jouais avec des gamins qui étaient dans une favela à côté. Et c'était pareil, j'essayais de me faire accepter, ils voulaient pas de moi, ils disaient que j'étais pas un vrai. » Enfin, je pensais pas que ça trouverait un tel écho.
Volume Riyad Satouf, qui aura une suite, forcément. Là, vous arrêtez en 92, c'est-à-dire vous avez à ce moment-là 14 ans. Exactement, donc il y aura une suite. C'est que vous dévoilez un secret de famille, ce que dans la quatrième de couverture on appelle le coup d'état de votre père, et c'est quelque chose dont vous n'avez jamais parlé, dont vous n'aviez jamais parlé et que vous évoquez aujourd'hui par le biais de ce livre autobiographique.
Oui, c'est vrai. Pour pas le dévoiler, mais c'est vrai que cet événement majeur en tout cas de ma vie, de la vie de ma famille, est vraiment pour moi, c'est une sorte de trou noir autour de laquelle gravite l'Arabe du Futur depuis le début. Parce que mon père était obsédé à l'idée de faire, comme je le disais, un coup d'État. Il disait tout le temps, un jour je ferai quelque chose qui changera le cours de l'histoire, que ça doit être incroyable de prendre une décision comme ça qui bouleverse la vie des gens. Et finalement, il l'a fait à un moment. Et c'est ce que je raconte dans ce livre, c'est le climax, voilà, les trois volumes de l'Arabe du Futur. J'ai eu besoin de trois volumes avant pour pouvoir aborder cet événement dans le volume 4.
Parce qu'il est important, douloureux, fondateur pour vous, d'une certaine façon.
Oui, il a été, et le dessin est très lié à cet événement aussi. C'est une des raisons principales pour laquelle j'ai fait l'Arabe du Futur.
Alors Riyad Satouf, vous avez beaucoup d'actualités parce que vous avez adapté vos cahiers d'Esther pour une série d'animations diffusée sur Canal+ depuis début septembre. Et puis alors, consécration, le Centre Pompidou Beaubourg va vous consacrer une exposition à partir du 14 novembre prochain. Vous succéderez dans ces murs à d'autres, à des géants du dessin, Art Spiegelman, Claire Bretéché et Franquin.
Oui, c'est une lourde pression, Patrick Cohen. Mais en même temps, ils me l'ont proposé, je ne pouvais pas refuser. Enfin, j'ai pensé à refuser un moment. Mmh. Mais je me suis dit, c'est quand même bêta de ne pas saisir cette occasion. Voilà, parce que j'ai beaucoup de lecteurs qui adorent mes livres. Ils seront contents de voir des dessins originaux. Ça va être une exposition où il y aura des dessins de toutes mes bandes dessinées. Il y a des dessins d'enfants, notamment ceux dont je parle dans l'Arabe du futur, des scènes de barbares, de massacres, etc., que je dessinais quand j'étais gamin. Et des photos de tournage, des photos d'ailleurs de mon enfance, on verra que j'étais vraiment blond.
Et du Pascal Brutal, et de toutes les bandes dessinées, et des films aussi, parce qu'on a, oui. Vous avez réalisé deux films, je le rappelle. Qui sont vos maîtres en matière de dessin? On voit bien que vous êtes éveillé à la bande dessinée avec Hergé et Tintin, mais qui sont vos maîtres, puisque vous allez habiter les murs de Beaubourg derrière des grands maîtres de la bande dessinée?
C'est vrai que la bande dessinée, c'est très très vaste. Bon, moi, j'ai admiré Hergé pour sa puissance de narration, sa technique pour raconter des histoires qui est indépassable. Aujourd'hui, j'adore des auteurs de bande dessinée comme Émile Bravo, qui a repris un Spirou, qui a sorti un Spirou, oui, magnifique, qui vient tout juste de sortir. J'adore des auteurs américains comme Chris Ware ou Daniel Clowes. Voilà, la bande dessinée est un univers très très large. Non, j'ai beaucoup beaucoup de maîtres.
Merci, et merci beaucoup, merci Riyad Sattouf, d'être venu ce matin en direct au micro d'Europe 1. L'Arabe du futur 4, une jeunesse au Moyen-Orient, 87-92, et donc il y aura une suite, c'est chez Alary Édition. Merci à vous.
Merci.
Merci Patrick Cohen, c'était C'est arrivé cette semaine, votre rendez-vous du samedi matin. On vous retrouve demain à 9h pour C'est arrivé demain. Alors bien sûr, votre journée continue avec Europe 1. À 10h, comme tous les samedis, vous retrouvez Olivier Duhamel dans Mediapolis. Et aujourd'hui, Olivier reçoit Michel Field, chargé de culture à France Télé. À 11h, vous êtes invité à la table des bons vivants de Laurent Mariotte. Et aujourd'hui, c'est les chefs cuisiniers Michel Guérard et Yves Candebord qui seront à ses côtés, ainsi que les spécialistes gastronomie d'Europe 1. Ils parleront passion, astuces, conseils. Vous allez devenir un collab en cuisine. En plus, pour les fêtes, c'est parfait. Vous saurez tout sur les recettes et les produits du moment. Alors bon samedi avec Europe 1, il est 9h55.